Bonjour François-Xavier de Maison.
Bonjour.
Ce n'est pas pour un film ou un one-man show qu'on vous invite ce matin. On avait envie de vous entendre à la veille du 20e anniversaire des attentats du 11 septembre. Vous viviez à New York à l'époque. Vous n'étiez pas encore comédien, mais fiscaliste international, vous l'avez souvent raconté. Cette date du 11 septembre, elle vous marque encore ?
Elle me marque, oui. C'est vrai que 20 ans, ça paraît, ça fait beaucoup et ça paraît très proche finalement, donc effectivement, il y a des anniversaires qu'on voudrait pas célébrer, mais ça fait 20 ans, oui.
Est-ce que vous la commémorez cette date d'une façon ou d'une autre ? Est-ce que, je sais pas, demain à 14h46, qui est l'heure où le premier avion a percuté la tour nord, est-ce que vous avez prévu quelque chose ?
Non, pas du tout, et puis je dois vous dire que c'est vrai que j'étais pas mal sollicité, et vous êtes la seule personne à qui je vais en parler.
Ah, mais je vous remercie.
Non, mais c'est vrai que c'est un souvenir qui reste marquant dans le sens où il a changé beaucoup de choses, comme vous le disiez. Ça a été vraiment un choc cathartique qui m'a fait prendre pas mal de décisions dans ma vie.
Et vous avez encore tous les détails en tête, quasiment minute par minute ?
Oui, je crois quand j'y pense, effectivement, ça reste assez précis, ça reste assez timé dans le déroulement de cette journée atroce et puis des journées qu'on suivit. Oui.
Vous étiez où au moment des attaques ?
Mais écoutez, j'étais, en fait, je prenais mon métro. Moi, j'habitais dans le sud de Manhattan et je prenais la ligne orange qui montait jusqu'à Midtown, jusqu'au Rockefeller Center et je suis rentré dans le métro, je pense, pile à l'instant où la première tour a été touchée. Et je me souviens que voilà, quand je sors du métro, je sortais dans une galerie marchande et j'aperçois sur un écran de télé le World Trade Center avec une fumée qui s'échappe. J'ai l'impression que c'est un film avec Bruce Willis ou un film catastrophe. Je réalise pas du tout ce qui se passe. Je monte dans mon bureau et on me dit qu'effectivement il y a eu un attentat et puis une deuxième tour est touchée. J'ai juste le temps finalement d'appeler mes parents à Paris pour les rassurer et puis on descend dans la rue, on voit cette espèce de masse de fumée. Et on nous dit qu'il faut quitter les lieux et ne plus retourner au bureau. Et je descends finalement toute cette ligne orange à pied et je retourne chez moi à pied en croisant des gens qui remontent complètement hagards, couverts de cendres. Voilà, c'est complètement apocalyptique.
Vous vous souvenez de tout, hein, des visages, de la sidération, des gens que vous croisez, de leur visage disait à ce moment-là?
Oui, je me souviens aussi d'un mouvement de panique au niveau de l'Empire State Building. Il y a une espèce de sirène de pompiers qui passe et il y a une foule comme ça qui marche et des mouvements de panique de gens qui savent pas trop ce qui se passe en fait. La situation n'est pas du tout comprise à ce moment-là. Donc effectivement, je me souviens de gens qui rentrent dans des boutiques de baskets pour changer de chaussures pour pouvoir rentrer chez eux plus loin à Brooklyn ou dans le New Jersey. Donc c'est une journée totalement apocalyptique, mais on s'adapte. Je dirais que l'être humain a cette capacité à vivre les choses avec une certaine résilience et on s'adapte à cette panique.
Comme vous, il y a plein de New-Yorkais hein, qui n'ont pas vu les avions percuter les tours, mais qui se sont retrouvés ensuite dans le nuage de poussière au moment où les tours se sont effondrées. Hein. Il y a eu un silence hallucinant dans la ville. Vous aussi, vous l'avez senti, ce souffle gigantesque, même si vous étiez un peu loin de ces deux tours ?
Oui, on sentait, et puis très vite, là, je dirais, la zone a été complètement isolée, la zone a été complètement bloquée par l'armée, donc je devais monter patte blanche pour pouvoir rentrer dans mon quartier.
Ah oui.
Moi, j'habitais à Houston and Clinton, c'est-à-dire à quelques rues, enfin, vraiment dans le sud de Manhattan, et ils avaient bloqué dès la dixième rue de... Donc c'était très difficile de rentrer dans mon quartier. Il y avait vraiment cet état de siège. Et puis, je suis monté sur le toit de mon immeuble. Il y a des petites terrasses comme ça sur les toits de ces petits immeubles. Vous savez, avec ces échelles, soit dans West Side Story, ces petites échelles en métal. Et puis j'ai vu qu'il y avait plus de World Trade Center, que voilà, la veille j'étais encore à le regarder. Et puis il y a eu cette soirée où les bougies sont allumées sur les marches des immeubles, où les gens priaient, où se retrouvaient, où il y avait cette espèce d'ambiance très humaine, très où cette ville frénétique s'est tout d'un coup arrêtée, s'est mise à respirer, à ne pas comprendre, sonner ce qui s'était passé.
Et les jours qui ont suivi, vous avez fait quoi? Vous êtes retourné au travail?
Oui, plus ou moins. Effectivement, les gens étaient complètement sonnés. Je vous dis, il y avait vraiment ce côté... New York, c'est vraiment une ville qui va très très vite. Et là, tout d'un coup, on a l'impression que l'humain avait repris le dessus, que vraiment les gens avaient besoin de se parler, de se regarder, de s'écouter. Et puis voilà, ça a été quelques jours comme ça avant effectivement les prises de décision du gouvernement Bush radicales et assez finalement définitives sur leur politique étrangère et donc du coup ça, là voilà, là on est rentré dans l'aspect revanche et là ça a été une autre dynamique mais ces quelques jours ont été très pacifiques et très très humains, voilà.
Vous dites que les gens avaient besoin de s'écouter, vous aussi finalement vous vous êtes écouté à partir de ce moment-là et c'est cette journée a vraiment été un tournant pour vous.
Oui, ça a été vraiment un choc. Alors je l'ai dit plusieurs fois et c'est vrai que ça peut paraître un peu simpliste avec du recul, mais c'est vrai que ça m'a fait mesurer que la vie était très très courte. Ça m'a fait mesurer la fragilité de l'existence et que voilà, j'aurais pu passer à côté de mon rêve d'enfant qui était de monter sur scène et que j'avais pas ma place dans un bureau, que moi je voulais faire de ma vie voilà une passion et que je m'étais un peu fourvoyé dans ce bureau où je m'ennuyais, donc j'ai réalisé qu'il fallait que je me dépêche de réaliser mes rêves.
Merci beaucoup pour votre témoignage, François-Xavier de Maison. Vous étiez l'invité du 5-7. France Inter.